Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Laurence, Laurence Lebrun. Bonjour.
Bonjour Baptiste.
Tu viens donc au studio après l'écriture d'un sacré ouvrage, parce qu'il est quand même bien épais. L'aromathérapie, je vais y arriver, et ses alliés naturels. Une coécriture,
oui,
d'ailleurs.
Avec une amie pharmacienne comme moi.
On va faire ça d'abord. Parler un peu de ton parcours, quel est-il ?
Alors moi, je suis un peu une pharmacienne atypique. Hein. Je n'ai pas un parcours pharmacienne d'officine. Très vite, après mes études de pharmacie, j'ai compris que je n'allais pas me restreindre à vendre des médicaments dans une officine, à juste travailler avec des médicaments de synthèse. J'étais passionnée par les plantes et j'ai vite réalisé que cet intérêt pour les plantes médicinales et les voyages surtout. Donc, d'ailleurs, j'ai fait ma thèse de pharmacie sur les tisaniers de l'île de la Réunion. Et là, ça a été une révélation, puisque là, j'étais confrontée au savoir traditionnel des herboristes de cette île. Et ça a été le début de cette passion pour les plantes médicinales. Après, je me suis spécialisée en aromathérapie, d'ailleurs, au début, dans les années 80. Donc, ça remonte à un certain temps, quand même, mes études de pharmacie, plus de 30 ans. L'aromathérapie, on n'en parlait pas trop, hein. C'était réservé aux initiés, un petit peu quelques naturopathes, quelques phytothérapeutes, mais très peu. C'était l'époque du docteur Valnet. Et donc, moi, à Montpellier, j'ai réussi à faire une formation. C'était un des premiers DU, diplôme universitaire d'aromathérapie et de phytothérapie, du docteur Jacques Pelcuère, hein, qui lui travaillait sur la salière des montagnes. Donc, c'était le début des chémotypes. Donc ça a commencé, c'est ça ma première, initiation à l'aromathérapie, ma première expérience avec les huiles essentielles. Puis après, je me suis désintéressée de l'aromathérapie et j'ai découvert l'ethnobotanique tropicale en travaillant avec le professeur Francis Allais de Montpellier. Mmh. Et là, il m'a fait découvrir l'ethnobotanique. Qu'est-ce que c'est l'ethnobotanique ? C'est la relation entre les plantes et les hommes. Et bien sûr, dans la forêt tropicale, alors ça a été l'Amazonie après, mais lui, avec ce DEA, là, ce diplôme d'études approfondies, c'était en Indonésie, en Thaïlande, en Asie du Sud-Est. Et ça aussi, ça a été une première relation entre les hommes et les plantes, que ce soit les plantes pour se soigner, que ce soit les plantes pour se nourrir, c'est ça l'ethnobotanique, relation les hommes et les plantes. Et donc, ça a été un début de passion. Et je suis partie après en Amazonie équatorienne avec Pharmaciens sans frontières pour étudier les savoirs traditionnels d'une ethnie en Amazonie qui s'appelle les Chouars. Et donc là, j'ai découvert la pharmacopée locale. Et j'ai continué dans plusieurs années en créant un jardin ethnobotanique, travailler avec ces savoirs ancestraux des Indiens et de l'Amazonie. Et ça a été une autre dimension. C'est parce que les Indiens ont une autre dimension au niveau des plantes. Ils ont une dimension spirituelle, ils ont une dimension sacrée. Et ça, pour moi, ça a été une révélation aussi, parce que moi, j'étais dans une relation très chimique, soignée avec les plantes. Et en découvrant cette relation que les Indiens avec les plantes, ça a changé ma vision pour toujours.
Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce travail auprès de ces Indiens, c'est dans un but d'étude ?
Alors, ça a été dans un but d'étude au début, puis après, c'est dans un but de travail. Je travaillais pour une ONG en montant ce jardin ethnobotanique. On était financé par l'Europe, c'était une ONG équatorienne. Et moi, j'étais comme directrice scientifique de ce projet. Et
à destination de l'Europe, du coup ?
Alors, l'Europe a financé, comme beaucoup de projets à l'époque, humanitaires et écologiques, financé des projets pour valoriser les savoirs traditionnels des Indiens. Alors, c'était une très belle expérience. Moi, ça a changé ma vie, ça.
Et est-ce que ça a changé la pharmacopée européenne ?
Non, pas du tout. Il faut savoir que l'Europe finance des projets, c'est aussi pour payer des experts. Enfin, c'est quand même assez... J'allais dire compliqué, ces financements européens, c'est pas altruiste. Hein. C'est, Il y a toujours un but. Mais bon, là, ce jardin existe toujours. Ça a été repris par les Indiens. Donc c'est, pour moi, ça a quand même été important, parce que de voir qu'il est encore ouvert au public, que ce sont des... C'est Teresa, c'est mon amie maintenant, qui dirige ce jardin. C'est beau, c'est une belle expérience. Et tous les Indiens qui ont été formés dans ce jardin sont devenus des leaders indiens. Ils défendent leur savoir, ils défendent leur culture, ils défendent... Ça, c'est beau aussi, j'avoue, c'est une belle fierté pour moi de voir... Que c'est eux qui le prennent en charge, c'est à eux de défendre leur biodiversité, leur culture, leurs plantes, leur langage, et puis se battent, et c'est un combat de tous les jours, malheureusement.
Pour revenir sur ces études de pharmacie, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait ce côté très chimique de l'approche. Est-ce que les plantes, justement, ont tout de suite eu une bonne place ou...
Alors, les plantes ont toujours existé. Hein, et je veux dire,
on voit que c'est quand même un peu décrié par certains corps médicaux. Parfois,
ça a été décrié, ça a été abandonné.
Même par l'État.
Oui, ça a été abandonné en France, en 1948, avec la disparition du diplôme d'herboriste. Et ça a été abandonné, les plantes. Elles étaient étudiées encore un peu en pharmacie, mais très peu. C'est devenu le monopole de la pharmacie. Plus d'herboristes en France. Les molécules, au départ, tous les médicaments chimiques, au départ, c'était presque une copie des molécules que l'on trouve naturellement dans les plantes. Puis après, la chimie a pris le dessus, la synthèse, et on a abandonné le côté naturel. Mais j'allais dire, on n'arrive pas à créer de nouvelles molécules, on les trouve dans les plantes. On est capable, avec la chimie, de les reproduire et de les faire synthétiquement, mais c'est comme si on n'avait pas d'idée pour faire de nouvelles molécules. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on continue à rechercher dans les pharmacopées locales et dans tous les pays du monde. Parce que c'est là où on trouve des nouvelles molécules qui vont soigner, et peut-être des nouveaux médicaments pour le cancer, pour le sida ou tout ce qu'on veut, quoi. Ou même le Covid maintenant, pourquoi pas. Mais c'est, au départ, c'est des plantes. Alors c'est sûr que c'est la chimie à tout...
Et on a l'impression même, parfois il y a certains débats qui sortent, que ça devient même interdit d'utiliser ces plantes-là. Les huiles essentielles, à un moment donné, c'était compliqué aussi.
Ouais. Alors, c'est pas interdit, mais alors, les huiles essentielles, il y a un problème de réglementation. Comme ce sont des produits qui sont multi-usages, une huile essentielle, on peut l'utiliser en parfum d'ambiance, on peut l'utiliser en complément alimentaire, on peut l'utiliser en massage, en cosmétique. Donc, on ne sait pas comment la réglementer. L'État français ne sait pas comment la réglementer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils obligent les fabricants ou les producteurs d'huile essentielle à choisir un usage. Soit vous êtes cosmétique, soit vous êtes complément alimentaire, soit vous êtes parfum d'ambiance. Mais le consommateur ne s'y retrouve plus parce que c'est la même huile. Une huile de lavande, vous pouvez l'utiliser soit en massage, soit en parfum, mais c'est exactement le même produit. Par contre, vous aurez des étiquetages différents en fonction de où vous l'achetez et comment vous l'achetez. Ça, c'est un petit peu mélangeant pour le consommateur, mais c'est la même chose. Alors oui, les pays essayent de réglementer, mais ce n'est pas si simple que ça. On n'interdit pas. Peut-être que les laboratoires pharmaceutiques voudraient peut-être interdire un jour, mais je ne pense pas. Ils ont tout intérêt à ce que ça soit complémentaire. Et c'est complémentaire d'une médecine allopathique. Ça ne remplace pas la médecine allopathique. Mais c'est complémentaire pour moi. Et dans le livre, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. On associe, on ne remplace pas un médicament. C'est complémentaire. Et il n'y a pas que les huiles essentielles. Il y a les plantes médicinales, les produits de la ruche. C'est très large.
Après ce voyage en Amazonie,
Le hasard de la vie m'a amené au Québec, où j'ai passé quand même 10 ans. Et là, j'ai découvert l'herboristerie traditionnelle au Québec. Et en fin de compte, les plantes médicinales nord-américaines. Et là, j'ai rencontré des pionnières de l'herboristerie québécoise. Je ne sais pas, bon, ici, on ne les connaît peut-être pas, mais c'est des Marie Provost, des Daniel Laberge, des Annie Schneider. C'est vraiment des dames qui ont joué un rôle important pour valoriser cette herboristerie au Québec. Et qui ont fait tout pour qu'elle ne disparaisse pas, au contraire, qui l'ont vraiment valorisée, et elle existe vraiment en ce moment, beaucoup plus qu'en France. Mais bon, il y a eu la Guilde des herboristes, c'est une association qui regroupe tous les herboristes du Québec et du Canada aussi. Du Canada, je dis une bêtise, du Québec, mais il y a d'autres associations au Canada qui sont comme la Guilde au Québec, qui vraiment regroupent pour défendre les droits de l'herboristerie Et ce n'est pas interdit de pratiquer l'herboristerie au Québec. C'est toléré, ce n'est pas reconnu, mais c'est toléré. Donc c'est très riche. Pour moi, ça a été aussi une belle aventure. J'ai travaillé pour des herboristeries traditionnelles. Alors c'est là où ma casquette de pharmacien est intéressante, parce qu'ils vont toujours demander de les aider au niveau réglementaire, au niveau qualité, au niveau recherche et développement. Donc c'est vrai, cette partie-là, pour moi, c'était une belle expérience. Et en 2011, je suis venue m'installer dans le Diois. Et j'ai travaillé pour un laboratoire, une entreprise qui commercialisait des huiles essentielles à Die, et qui les distillait pas, mais qui les commercialisait, on va dire.
C'est presque trop facile de savoir où tu bossais, du coup.
Oui, il n'y en a pas beaucoup à Die, il y en a deux, trois.
Et en préparation à ce moment-là aussi.
Et alors, je travaillais comme responsable qualité, la même chose. Donc, ils avaient besoin d'une caution de pharmacienne pour tout ce qui est qualité, recherche et développement et réglementaire. Parce qu'à l'époque, en 2011, c'était le début de la réglementation. Et ça commençait aussi l'engouement pour l'aromathérapie. Et donc, toute cette réglementation qui suivait, ce n'était pas facile à mettre en place.
Ouais. Alors, quelle est-elle ?
C'était cette fameuse qu'on parlait tout à l'heure de réglementation sur... au niveau complément alimentaire, cosmétique, c'était le début des réglementations cosmétiques européennes, parce que ça aussi, toutes les réglementations, elles dépendent aussi de l'Europe. Donc l'Europe sort des décrets que chaque pays met dans son droit national. Et donc on doit appliquer. Et c'est là où il y a des cahiers des charges à respecter, il y a des qualités à respecter, des étiquetages à respecter, des déclarations à faire au niveau en France, il faut les déclarer au niveau de la DGCRF, en cosmétique, il faut les déclarer sur un portail européen. Enfin, il y a vraiment, c'est très complexe et ça évolue de jour en jour. Donc c'est de plus en plus compliqué, mais c'est faisable encore. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec les essentiels, bien sûr.
Et après ça, un moment.
Donc après ça, j'ai travaillé 6 ans, je pense. Et en 2017, j'ai décidé de partager mon expertise que j'avais eue en aromathérapie comme consultante. Donc maintenant, j'accompagne les entreprises au niveau réglementation. Et surtout, je partage ma passion pour ces huiles essentielles sous forme d'ateliers, de formation. Et donc là, j'ai fini l'écriture d'un livre avec mon amie Claudie Bourri sur l'aromathérapie, ses alliés naturels. Donc c'est plus en indépendant, plus un choix de vie de reprendre un peu cette liberté que j'avais eue il y a un certain nombre d'années.
À qui est destiné cet ouvrage ?
Alors cet ouvrage est destiné aux néophytes, à celui qui veut se soigner avec les huiles essentielles, et pas que les huiles essentielles, parce que le côté innovateur de ce livre, c'est l'aromathérapie, donc c'est les huiles essentielles, mais c'est ses alliés naturels. Vous pouvez les complémenter, les associer à d'autres médecines naturelles, comme la phytothérapie, donc c'est l'usage des plantes médicinales, comme l'apithérapie, ça c'est, on connaît un petit peu moins, c'est les produits de la ruche. Et peut-être vous connaissez la propolis, la gelée royale, le pollen, le miel aussi. Le miel, on peut beaucoup se soigner avec le miel. Alors, il faut avoir des miels de qualité. Puis, on a la chance en France d'avoir des miels de qualité que certains pays n'ont pas. On a des miels de thym, de romarin. Enfin, on a des miels très diversifiés. C'est sûr qu'il faut faire attention à l'origine, mais il y a encore des apiculteurs qui font de très bons produits. Et la gémothérapie. Alors la gémothérapie, ça aussi, c'est peut-être moins connu. C'est la médecine par les bourgeons. Donc on va récolter les bourgeons, on va les faire macérer dans une préparation alcool glycérinéo. Et donc ça fait donc un extrait. Puis après, on va extraire tous les actifs de ces bourgeons. Et c'est toute une philosophie de soigner, un petit peu qui se rapproche un peu de l'homéopathie. On va soigner le terrain plutôt que les symptômes. Donc c'est très doux, la gémothérapie.
C'est lié aux fleurs de Bach et tout ça ?
Non, pas du tout. Les fleurs de Bach, ça, c'est autre chose encore. Les fleurs de Bach, ça va être l'énergie des fleurs avec une solarisation des fleurs. Donc c'est vraiment, ça travaille seulement au niveau énergétique. Alors que la gémothérapie, ça va travailler au niveau des actifs, un petit peu comme les plantes médicinales. Mais c'est une autre façon de soigner. Ouais.
Voilà, donc c'est plusieurs thérapies ensemble autour de cette question de l'aromathérapie. Comment est-ce qu'il est structuré, ce livre, alors ?
Alors, comment il est structuré ? On a essayé de faire un guide simple. Ouais. Bon, c'est quand même 300 pages. Mais on a essayé d'être le plus accessible possible. Donc, comment il est structuré ? Donc, au départ, il y a quelques généralités sur toutes ces thérapies qui existent. Puis après, on a répertorié une centaine de pathologies courantes. Alors, c'est un petit peu de la bobologie, ce que j'appelle. C'est-à-dire que c'est des pathologies que vous pouvez soigner avec des médicaments, mais sans ordonnance. Donc, ce n'est pas des pathologies lourdes, comme le cancer ou autres, ou même des pathologies qui demandent un suivi médical.
Pardon, mais cette question de l'ordonnance, justement, ça aurait pu être un problème ? Il faut faire attention, quand on écrit ce type d'ouvrage, à ne pas aller vers certaines maladies.
Bien sûr, on n'est pas des médecins. Hein, je veux dire, il n'y a que le médecin qui peut prescrire des médicaments sur ordonnance. Faut faire attention. Moi, je suis pharmacienne, donc je suis pas thérapeute, donc je vais pas prescrire des médicaments sur ordonnance. Non, pas du tout. Donc, il faut faire attention. Oui. C'est un livre d'automédication. Enfin, c'est-à-dire, c'est pour aider les gens à se prendre en charge au niveau naturel et holistiquement. Mais ça ne remplace jamais une prescription médicale, un traitement médical qu'un médecin aura prescrit à un patient. Attention, ne jamais remplacer. Ça, c'est sûr, c'est très important. Ouais. Donc voilà, donc c'est des pathologies de tous les jours. Hein. Je ne sais pas, moi, je peux vous donner comme exemple la constipation, la couprose, la gastro-entérite, l'immunité. C'est aussi dans la prévention. Les huiles essentielles sont très efficaces dans la prévention. Donc on a essayé, donc on est parti. Dans ces fiches, on a essayé de partir sur quelque chose de simple. Faites compte du... C'est peut-être le côté un petit peu original, c'est le conseil du pharmacien en officine. Qu'est-ce que le pharmacien, vous auriez été dans une pharmacie, il vous aurait conseillé quoi comme produit sans ordonnance, hein, pour vous arrivez, vous dites, j'ai mal à la gorge, le médecin, ou j'ai mal à la tête, le pharmacien, il vous prescrit quoi ? Il va vous prescrire du Doliprane. Donc il va vous donner un médicament sans ordonnance. Et nous, on est parti de ce concept-là. OK, le pharmacien, il vous donne ce médicament. Mais nous, on vous propose une alternative, c'est une huile essentielle. Une huile essentielle réflexe. Donc, on est parti d'une huile essentielle. Pourquoi une ? On aurait pu partir sur 4 ou 5. Mais l'intérêt, c'est pas de vous faire acheter 50 000 huiles essentielles. Tout d'abord, parce que les huiles essentielles, c'est des concentrés d'actifs. Donc, c'est quand même très fort. Il y a des précautions d'emploi à respecter. Et ça, nous, dans le livre, on met vraiment bien l'accent sur les précautions. C'est pour des adultes, hein, c'est pas pour des enfants. Ça veut pas dire que c'est interdit aux enfants, mais moi, je...
Tu veux dire les dosages ?
Les dosages, proposés, hein, les dosages proposés. Ouais. C'est pour des enfants au-dessus de 7 ans, parce que c'est de l'automédication. Les enfants, vous pouvez les utiliser, mais il faut vraiment respecter les dosages. Et c'est pour vraiment des personnes qui connaissent les huiles essentielles qui peuvent les utiliser chez les enfants. Mais moi, je ne conseille jamais d'utiliser des huiles essentielles chez les enfants si vous ne savez pas les utiliser. Ou c'est la première fois que vous utilisez, vous êtes néophyte dans les huiles essentielles. Donc, si je reprends la fiche, donc, on est parti d'une essentielle avec un dosage, avec un effet... Donc, c'est des conseils assez simples. Si vous voulez, on peut prendre un exemple. Je ne sais pas si tu veux.
Allez,
qu'est-ce que tu voudrais ?
On pioche au hasard. Si, mais par exemple, qui concernerait tout parfaitement la période du moment. On est tous un peu malades, tous un peu en manque d'immunité.
Parfait. Donc voilà, le pharmacien, lui, va peut-être vous conseiller quelque chose en prévention de l'immunité, pour vraiment booster votre système immunitaire, pour renforcer vos défenses immunitaires. Il vous aurait peut-être prescrit du Bio-3, du Prémul, ça c'est des médicaments qu'on trouve sans ordonnance.
La vitamine C.
En homéopathie aussi, de l'oscillococcinum. Ça, tout le monde a peut-être pris un peu d'oscillococcinum. C'est très bon. Hein. On ne remet pas en cause ces médicaments, mais nous, on va proposer autre chose. Donc, si vous voulez vous soigner, vous l'essayez, l'aromathérapie, pour booster votre système immunitaire. Bon, on va peut-être essayer le Ravintsara.
Le
Ravintsara, alors ça, c'est une huile essentielle.
Je pense qu'on
commence à connaître beaucoup. C'est un camphrier qui pousse en Asie, mais quand il pousse à Madagascar, ce camphrier, Cinnamomum camphora, il va développer des molécules qui est le 1,8 cinéol, juste à Madagascar. Pourquoi ? Ça aussi, ça fait partie des mystères et ça serait toute une émission à faire vraiment sur l'origine des huiles essentielles, enfin l'origine des plantes, où ça pousse. Le terroir est important, la provenance aussi. Enfin, c'est très complexe. Et donc, ce fameux camphrier à Madagascar, il devient le Ravinsara. Il est donc riche en 1,8-cinéol. Ça, c'est une molécule qui est immunostimulante. Donc, il va donc... et antiviral, un très fort antiviral. Donc, il va donc stimuler votre système immunitaire. Donc, un conseil en prévention, c'est mettez une goutte dans deux gouttes d'huile végétale et un massage sur les poignets. Donc, vous voyez, quelque chose de très simple que vous pouvez faire pendant 10 jours ou... alors, ne pas le faire en continu sur 6 mois, 10 jours par mois, ou vraiment en prévention.
Puis un petit peu avant des périodes où on sent que...
Ouais, qu'il y a une épidémie.
L'automne, par exemple.
Voilà, l'automne, année. Où vous sentez qu'il y a des personnes qui toussent. Soudain, vraiment pour vous protéger, en fin de compte. Une protection. Vous pouvez le mettre aussi... vous pouvez le renifler, ça aussi c'est intéressant, c'est un petit peu, c'est une autre façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est un peu la base de l'olfactothérapie, c'est juste renifler les huiles essentielles. Les molécules vont passer dans l'organisme juste en le reniflant. Alors c'est sûr que c'est moins fort que de l'ingérer ou le massage, mais c'est déjà intéressant. C'est le principe de la diffusion aussi. Donc
ça avec c'est les diffuseurs,
avec
les essentiels,
avec les diffuseurs. Alors vous pouvez aussi Si l'huile essentielle de Ravinsara ne vous suffit pas, faire un mélange, une synergie. Alors, vous pouvez faire Ravinsara, citron, laurier, marjolaine. Ça, c'est un exemple de synergie que l'on donne, mais ça peut être d'autres synergies. Pour ça, c'est notre recette à nous. Et donc, dans un diffuseur, vous mélangez quelques gouttes une goutte de chaque. Ou alors vous préparez votre mélange à l'avance, vous mettez 5 gouttes de chaque, puis après vous le mettez dans votre diffuseur. Alors dans un diffuseur, c'est jamais faire de diffusion en continu. C'est 15 minutes maximum. Après, vous saturez l'air, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Il vaut mieux le répéter 2 ou 3 fois dans la journée que de le faire en continu. Voilà. Donc ça, c'est notre synergie. Ça, c'est avec l'aromathérapie. Et alors donc... Si vous voulez compléter l'aromathérapie, vous pouvez aussi utiliser alors l'apithérapie. L'apithérapie, ça va être la gelée royale. Faites une cure de gelée royale pour renforcer votre système immunitaire. Ou faites une cure de propolis. Donc, vous pouvez donc tout à fait compléter ce Ravinsara avec de la propolis ou de la gelée royale. En phyto, il y a aussi beaucoup de plantes qui vont stimuler votre système immunitaire. La plus connue, c'est l'échinacée. Vous pouvez faire aussi une cure d'échinacée, de teinture d'échinacée ou de gélule d'échinacée. Ça dépend ce que vous trouvez. Et puis, vous pouvez aussi en gémothérapie, la même chose, vous allez travailler sur le terrain. Donc, pour renforcer votre système immunitaire, le cassis. Alors ça, le cassis, c'est vraiment... les bourgeons de cassis, vous pouvez les utiliser pour tout ce qui est inflammatoire. Et donc aussi, ça va vraiment au niveau du terrain. Ça va être un immunostimulant. Le rosier sauvage, le sapin. Donc voilà, vous voyez, vous avez plein d'options en plus de l'aromathérapie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'un petit peu différent que l'on apporte dans le livre.
Justement, ce livre, alors je le disais tout à l'heure en antenne, et puis il faut qu'on en parle maintenant.
Bien sûr.
Il a quand même un aspect un peu technique. Et là, tu m'expliquais que heureusement qu'il l'était un peu quand même, parce que finalement, c'est pas non plus à glisser n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle main, sans un peu de technique, un peu de connaissance, finalement, de cette aromathérapie. C'est presque bien pour un certain nombre de pharmaciens ou des personnes qui ont déjà un peu été initiées, quelque part.
Oui et non.
Il
est fait pour, en fin de compte, on a essayé de le faire pour tout public. Autant un pharmacien pour donner son conseil dans son officine, autant des étudiants en pharmacie qui veulent apprendre plus sur l'aromathérapie, et aussi pour une personne qui veut découvrir... quelqu'un qui veut découvrir l'aromathérapie ou qui les utilise, mais qui veut en savoir un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il peut peut-être paraître un peu technique, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que c'est des concentrés d'actifs. Ce n'est quand même pas anodin de se soigner avec des huiles essentielles. Il y a une certaine toxicité. Et donc, il faut vraiment en avoir conscience. Je veux dire, des huiles essentielles.
On peut se brûler avec, par tout exemple, sur certaines muqueuses. Donnons quelques exemples.
La cannelle, c'est dermocaustique. Si vous mettez une goutte d'huile essentielle de cannelle pure, vous allez avoir une brûlure. C'est aussi toxique sur les reins et sur le foie. C'est aussi neurotoxique. Donc, certaines huiles essentielles. Donc, il faut apprendre à les connaître, à les reconnaître. Pas toutes. Il y a des huiles qui sont très douces, comme la lavande, le titri, ça, c'est des huiles essentielles qui sont douces. Mais des huiles essentielles qui sont à base de phénol, ça, c'est des molécules qui sont vraiment très fortes et très toxiques à haute dose. Et donc, il faut faire très attention quand on les utilise. L'origan, la sarriette, le thym thymol. Donc, toutes ces huiles essentielles, et il faut apprendre à les reconnaître et puis les utiliser. Et c'est vraiment l'aromathérapie, on soigne pas le terrain avec l'aromathérapie, comme la gémothérapie. On soigne l'urgence. C'est vraiment des traitements courts. C'est 7 jours, souvent c'est maximum. Des fois, c'est 21 jours avec certaines huiles. Pour soigner un rhume, c'est 7 jours maximum. Vous n'allez pas utiliser...
Si ça ne marche pas, il faut passer à autre chose.
Ouais. Et puis, vous changez d'huile. Et puis, il faut respecter les dosages. Une goutte de trop, c'est une goutte de trop. Pour certaines huiles, c'est grave. Donc, faites attention. Donc, c'est pour ça que, oui, ça paraît peut-être un peu compliqué parce que les dosages sont très précis, mais il faut les respecter. Et il faut apprendre à les connaître. Il faut apprendre à connaître la chimie aussi. Et toutes les huiles, enfin, une huile de thym, il ne suffit pas de savoir que c'est de l'huile essentielle de thym. Il y a 10 huiles essentielles de thym. En fonction du chémotype, c'est la carte d'identité chimique du thym. Donc, le thym thymol, le thym linalol, le thym géraniol. Et ils sont plus ou moins forts suivant la concentration de molécules qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut apprendre à les reconnaître. Et ça, c'est important. Oui, c'est vrai que c'est pas à portée de tout le monde. Et puis ça dépend comment on se soigne. C'est vrai que la voie orale, c'est la plus difficile à maîtriser, donc parce que c'est là où on va avoir le plus de... Il faut faire attention au dosage, plutôt. Si vous voulez commencer avec l'aromathérapie, n'utilisez pas la voie orale. Utilisez la diffusion, utilisez les massages, donc la voie cutanée. La voie cutanée, ça marche très bien, parce que les huiles essentielles, c'est les molécules qu'il y a dans les huiles essentielles, c'est des molécules très petites, des molécules volatiles, qui passent la barrière cutanée. Donc, si vous faites un massage, vous allez avoir l'huile essentielle qui a passé dans le sang. Donc, c'est déjà très, très efficace. Et il y a la voie rectale aussi, les suppositoires, ça marche très bien. Hein. Avant, on se soignait tous avec des suppositoires à base d'huile essentielle. Moi, j'étais à l'époque du Trophirès. Bon, c'est peut-être pas ton époque à toi.
Ça ne dit rien.
mais les suppositoires à l'eucalyptol, pour les enfants, ça marchait très bien. C'est à base d'huile essentielle. Ouais, donc maintenant, c'est vrai que c'est un peu banni.
Il se passe un truc avec le suppositoire. Ouais,
c'est une voie qui n'est pas du tout aimée et qu'on utilise de moins en moins, mais c'est une voie qui est très efficace parce que la muqueuse rectale, ça va direct dans le sang et ça diffuse très rapidement. Et un peu comme la perlinguale aussi, sous la langue. Donc c'est vrai que c'est des voies qui sont très intéressantes, mais c'est des aromathérapeutes qui vont les utiliser. Et puis, il ne faut vraiment pas, si vous voulez vraiment vous soigner par huile essentielle, des fois, c'est bien d'avoir un suivi avec un thérapeute, avec un aromathérapeute qui peut vous faire le suivi pour certaines pathologies. Mais il y a beaucoup de pathologies que vous pouvez soigner tout seul avant d'utiliser des médicaments beaucoup plus forts.
Hein. Ce qui est l'occasion de rappeler au passage que le doliprane est très dangereux lui aussi, hein, à forte dose ou de manière régulière.
Forte dose, mais...
Il éclate les reins de la même manière.
Exactement, ouais. C'est la même chose. Je veux dire, voilà, doliprane, vous en prenez tous les jours une dose, je ne sais pas, 8 par jour ou 4 par jour, je crois que c'est... Il ne faut pas dépasser...
C'est 6 ou 4, c'est ça. 8.
Ouais, bon. Vous allez vous détruire les reins. Ben, c'est la même chose avec les huiles essentielles, il faut faire attention, il y a certaines huiles, vous allez vous détruire le foie. Alors, c'est pour ça que des fois, dans nos mélanges, dans nos synergies, on va mettre une huile essentielle. On sait que cette huile essentielle va avoir une action sur le foie. On va mettre une huile essentielle hépatoprotecteur, c'est-à-dire qui va protéger votre foie, comme l'huile essentielle de citron. Donc les deux ensemble vont annuler la toxicité sur le foie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des recettes. Ouais.
Prenons cette huile essentielle de lavande qui, à mon avis, est la plus populaire en France, ici, surtout aussi dans le Diois. On a l'impression qu'elle a, comme ça, des capacités absolument incroyables de la cicatrisation jusqu'à la respiration, ou pour faire sentir bon la lessive. Est-ce qu'on pourrait la mettre un peu en avant, en dire si selon toi il y a des dangers, comment elle est utilisée, plutôt bien ou mal selon toi?
La lavande, pour moi, c'est la maman des huiles. Hein. C'est vrai que s'il y en avait une à avoir, ça serait l'huile essentielle de lavande.
C'est valable dans le monde entier, ça ou...
Alors, après, il y a des qualités de lavande.
C'est très français.
Le problème, je pense que c'est très français, mais la lavande, en fin de compte, les personnes utilisent plus le lavandin que la lavande. Ils ne se rendent pas compte parce que tout dans les lessives et tout ça, c'est du lavandin. Ce n'est pas de la lavande. Alors, le lavandin, qu'est-ce que c'est? C'est un hybride de la lavande. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a fabriqué un hybride pour avoir un rendement, une huile essentielle qui était beaucoup moins chère et beaucoup plus de rendement d'huile essentielle. Donc, ils ont fabriqué une huile différente, enfin, une huile essentielle différente, qui est intéressante. Hein, le lavandin, on va l'utiliser plus pour tous les problèmes musculaires, parce qu'elle est riche en camphre, alors que la lavande, elle n'a pas de camphre. Donc, c'est pour ça qu'elle est moins toxique que le lavandin, par exemple. Mais c'est la plus utilisée dans le monde, c'est le lavandin. Hein, ce que vous retrouvez dans vos détergents, dans vos savons, c'est du lavandin. Moi, la lavande, c'est une huile que j'aime beaucoup, qui est douce. Alors, il y a différentes qualités de lavande. Il y a la lavande sauvage. Ici, on a la chance d'avoir des lavandes sauvages encore. Dans le Diois, il y a encore des ramasseurs de lavande sauvage qui vous font une huile essentielle de lavande de très bonne qualité. Ça aussi, c'est un autre problème qu'il faut de plus en plus faire attention, c'est la qualité des huiles essentielles.
Bio obligatoirement.
Bio, alors. Ça c'est sûr. Privilégier les petits producteurs locaux. Ici, vous avez la chance dans le Diois d'en avoir. Alors, ils produisent pas toutes les huiles essentielles. Il y en a très peu quand même qui sont produites ici localement. Mais vous en trouvez. Donc, il faut essayer de jouer avec les petits producteurs locaux. Français et européens. Les licrisses, par exemple, vous les achetez en Corse. Enfin, vous prenez celle de Corse. Même si ici, il y en a une de bonne qualité aussi. Mais c'est celle-là qui a la meilleure qualité. La lavande, c'est en Provence, c'est sûr. Et puis, il y a une AOP. Enfin, il y a une qualité sur la lavande. Mais la lavande, pour moi, c'est la maman des huiles parce qu'elle soigne beaucoup de choses. Elle est cicatrisante, donc vous pouvez toujours tout l'utiliser pour les petits bobos. Elle est anti-inflammatoire, donc elle est aussi, antivirale, elle est antiseptique. Donc c'est intéressant, la lavande.
Contre les champignons.
Les champignons aussi, bien sûr. Donc si vous devez en avoir une, la lavande, moi j'aurais la lavande aussi. S'il y en a trois, ben, on en rajoute. Mais
vas-y, on se met les cinq qu'il faudrait toujours avoir, selon toi. Alors, lavande, ravintsara.
Ravintsara, titri.
Pourquoi, titri?
Titri parce que c'est un antibactérien. Et pour les champignons, tu parlais des champignons. Ouais. Si vous avez des mycoses cutanées, c'est parfait, ça. Et puis, c'est très doux. On peut l'utiliser, c'est une des rares, comme la lavande, qu'on peut utiliser pure sur la peau. Alors, il faut toujours faire un test dans le pli du coude parce que les personnes sont allergiques plus ou moins aux huiles essentielles. Et il y a beaucoup d'allergènes dans les huiles essentielles. Donc, des personnes allergiques, il faut vraiment qu'elles fassent un test sur le pli du coude. Toujours utiliser les huiles essentielles diluées dans une huile végétale. Ça, c'est important. Il y a quelques huiles, comme la lavande, le titri, qu'on peut utiliser pures en fonction de la résistance que vous avez, enfin, l'acceptation que vous avez au niveau de cutané. Alors, on a dit, moi, je dirais après, hélicryse italienne pour tout ce qui est coups, blessures.
Bleu boss,
c'est une huile qui est assez chère, mais je trouve que c'est intéressant. L'amande poivrée aussi, même si c'est délicat, l'amande poivrée, elle est quand même assez toxique. L'amande poivrée, il y a vraiment des restrictions, mais c'est bon pour tout ce qui est nausées. C'est un antalgique, donc c'est pour les douleurs, mal de tête.
Alors c'est sûr que quand on se masse, par exemple, les tempes, on peut avoir les yeux qui pleurent.
Eh bien oui, mais il faut faire attention parce que la bande poivrée, c'est ça. Si vous en mettez sur les tempes, attention les yeux parce que vraiment... Et puis c'est un effet de froid. C'est-à-dire si vous mettez un flacon de bande poivrée dans un bain en disant « tiens, ça va me rafraîchir », vous avez un choc thermique et on peut en mourir. Donc il faut éviter le choc thermique avec la bande poivrée. Donc il faut faire attention. Et puis il y a des contre-indications qui... au niveau de l'amande poivrée, qui sont un peu plus importantes. Mais c'est une bonne huile. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La camomille, moi j'aime bien la camomille romaine ou la camomille, la matricaire, mais c'est des huiles qui sont quand même relativement chères, mais qui sont des antispasmodiques, calmantes. Et puis une huile Le petit grain bigarade aussi. C'est une huile. C'est les feuilles de l'oranger amer qui sont distillées. Ça aussi, c'est important dans les huiles essentielles de savoir quelle est la partie de la plante qui est distillée. Parce qu'en fonction de la partie de plante, vous avez une huile essentielle qui est différente. Le petit grain bigarade, c'est intéressant, c'est la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, si vous distillez les fleurs, vous aurez l'huile essentielle de Néroli. Si vous distillez les feuilles, c'est le petit grain bigarade. Et si vous distillez le fruit, enfin on distille pas parce que on distille pas les agrumes, on va les presser, on va récolter cette essence. Ce sont des essences en fin de compte les agrumes. Bon, on dit huile essentielle, mais on devrait dire essence d'agrumes. Ce serait le terme plus approprié. Bon ben c'est la bigarade.
On en fait même les pépins aussi.
Et les pépins, de pamplemousse, ça c'est autre chose, mais il n'y a pas d'huile essentielle dans les pépins. Il y a un autre actif qui est bactéricide et qui est très intéressant aussi. Ouais. Mais ce n'est pas de l'huile, c'est des flavonoïdes. Ouais. Donc voilà.
Bon, c'est bien. Au lieu de 5, on en a fait 7.
Ah oui, c'est difficile. Alors dans le livre, moi je vous en mets 12.
En tout, ah oui.
Alors c'est ça, dans le livre, il y a des tableaux qui sont récapitulatifs. Il y a des petites aromabox, c'est-à-dire des petits kits. Donc, qui sont assez pratiques. Donc, c'est vrai qu'on a essayé d'être le plus pratique possible. Et nous, moi, j'en avais mis 12. On nous a mis 12 avec notre... Alors, attendez, ils sont où les 12 ? Avec Claudie Bory, pardon.
Voilà. Ouais. Sur ce livre, L'aromathérapie et ses alliés naturels, où on est en train de chercher dedans, hein, on entend les petits bouts de feuilles.
Excusez-moi, là, mais
pas de souci, pas de souci. Où est-ce qu'on trouve ce livre en attendant ?
Alors... Malheureusement, il est sorti le 9 novembre, la sortie officielle dans les librairies.
Qui ont été fermées.
Ça a été un petit peu flop. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous. Mais normalement, la librairie Mosaïque, je suis allée les voir, ils m'ont dit qu'ils l'avaient référencé. Donc vous pouvez le trouver à la librairie Mosaïque et le chercher en
clic-collecte.
Vous pouvez le commander et clic-collecte. Sinon, vous pouvez me demander directement à moi. Moi, je peux vous en vendre aussi. Peut-être Baptiste, tu donneras.
Voilà, par le biais de la radio, n'hésitez pas.
Voilà, mon mail, je peux donner mon mail et puis vous pouvez me contacter.
Mais sinon, il a une distribution.
Dans toutes les librairies en France, dans les grandes librairies, les grands noms, hein, Cultura, Fnac, par Internet, évitez Amazon.
Mais il y est quand même.
J'imagine. malheureusement, il doit y être. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas malheureusement sur Amazon? Mais partout, ouais, vous pouvez le trouver partout maintenant. Maintenant qu'il a été, il est sorti officiellement en librairie, il faut peut-être le commander. Mais sinon, sur le site, alors c'est un livre qui est l'éditeur, c'est les éditions Terran. Terran, ils faisaient des livres et ils font des livres sur l'écologie, le jardinage. Et donc, ils ont une section santé. Nous, on est dans la section santé. Donc, allez sur leur site, hein, terran.fr. Et ils ont un livre sur la gémothérapie. Donc, ils ont plusieurs axes sur l'ortie. Donc, vous allez voir qu'il y a de très beaux livres hein, aussi dans cette maison d'édition. Nous, on en avait mis 12 pour revenir aux 12 huiles essentielles indispensables. Arbre à thé, donc c'est le titri. Le basilic tropical, la camomille, le citron, la gaultérie.
Ah oui.
Pour tous les
problèmes musculaires.
Voilà, les licrises, la lavande, la menthe poivrée, le ravintsara, les lemons de grâce, le thym thymol. Voilà, donc sur ces 12, vous pouvez en prendre. On a mis combien ? 3, 4. 3, c'est pas facile. Hein. 5, c'est plus sain. Moi, je préfère 5 huiles. Hein. Avec 5, on peut faire plus de choses. Hein. Donc moi, je dirais lavande, ravintsara, menthe poivrée, élicrise, arbre à thé. Ça fait 5, ça ?
Ça fait 5.
Voilà. Et rajouter peut-être la gaultérie pour des douleurs, pour des tendinites ou des choses comme ça.
Pour tous les sportifs.
Pour les sportifs, voilà. Ça dépend un peu ce que vous voulez.
Comment est-ce qu'il est reçu, ce livre, par les professionnels ? Vous avez déjà des retours, un peu, toutes les deux ?
Alors, oui, on a pas mal de retours très positifs. Des personnes qui utilisent les huiles essentielles, qui ont trouvé que le livre était très pratique, que c'était vraiment une façon innovante de présenter l'aromathérapie.
Je suis bien d'accord.
Les professionnels, les pharmaciens aussi, des étudiants en pharmacie. Pour eux, c'est comme ils disent, c'est ma Bible pour conseiller. Ils ont trouvé ça, pour le conseil, très intéressant. Après, bon, il vient de sortir, donc on va avoir peut-être encore plus de retours. Hein.
Oui, mais il aurait pu être tout de suite soit pas compris, soit...
au contraire, on a que des bons retours. Et puis, il y en a au Québec, j'ai des personnes qui me l'ont commandé et en Finlande, en Tchécoslovaquie. Enfin,
faut le traduire, alors.
Presque. J'étais étonnée, d'ailleurs. En Europe, en Belgique, en Suisse. Ouais.
C'est quoi la suite, Laurence ?
La suite, pourquoi pas un autre livre ? Bon, c'était une aventure d'écrire un livre. Ça a été 3 ans quand même. Hein.
Ouais.
Et puis, Claudie, c'est l'idée de Claudie au départ. Et elle y pensait depuis un moment. Et quand on s'est rencontrés, elle avait commencé, mais elle n'arrivait pas à le finaliser. Donc, quand elle m'a embarqué sur cette aventure, on n'avait aucune idée, toutes les deux, dans quoi s'embarquer, j'avoue. Hein. Parce qu'entre l'écrire, et puis après avec l'éditeur, le manuscrit, ça a été 2 ans. Quand on a rendu le manuscrit...
Même trouver la présentation, justement, cette présentation-là, en l'occurrence.
Alors ça, c'est quand même c'est l'éditeur qui s'occupe de tout ce qui est mis en page. Mais nous, il faut qu'on soit d'accord. Donc, c'est tout un aller-venu. Ça a été incessant, ça, de savoir est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, on aime ça. Oui, la présentation. Ça a été 1 an, en fin de compte. Quand on a rendu le manuscrit l'année dernière, en novembre 2019, on pensait que c'était fini. Nous, on était un peu naïfs, comme c'est notre premier livre. On s'est dit, tiens... C'est bon, on rend le manuscrit à l'éditeur. Ça faisait déjà 1 an qu'on travaillait dessus, toutes les deux. Et si ça y est, c'est bon, on peut partir en vacances.
Ouais. Et
ça a été même plus de travail que... la Covid a un petit peu retardé tout, puisque pendant 2 mois, il aurait dû sortir en juin. Et il est sorti en novembre. Donc, il y a eu un peu des retards, mais quand même, c'était très intense. Les allées-venues avec l'éditeur pour être d'accord sur la couverture, sur la mise en page, sur les couleurs, sur les rabats. Enfin, c'était...
Il est très vert, d'ailleurs, ce livre. Ouais. Parce qu'il est plein de plantes.
Il est naturel.
C'est ça.
Il est très écologique.
Donc, peut-être un autre livre, alors.
Peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, c'est faire la promotion du livre, c'est continuer de partager mes passions sur les plantes et l'aroma avec le grand public. J'ai un blog aussi qui s'appelle conseilphytoaroma.com où je partage depuis 5 ans tout ce qui est sur les plantes, l'aroma. Enfin, vraiment, c'est très large. Et je ne suis pas toute seule à l'écrire dans ce blog. On est des expertes, on est 5 personnes à écrire régulièrement des articles sur les plantes et les huiles essentielles. Ouais.
Voilà. Et puis de la formation, peut-être
La formation, bien sûr. La formation, les colloques, peut-être des formations en Zoom, mais ça, c'est
en ligne.
Ça, j'avoue, je ne suis pas encore trop chaude là-dessus, mais je pense qu'avec le contexte actuel, on s'en va vers des formations en ligne de plus en plus virtuelles. Ou sinon, en présentiel, bien sûr. Moi, je préfère le présentiel. Avec, dans un atelier d'aroma, je trouve que de faire sentir, de faire toucher ces huiles essentielles, c'est important. Ouais.
L'aromathérapie et ses alliés naturels, ce livre, donc Savoir les associer, c'est un peu le sous-titre. Donc, chez Terran, on vient d'en parler. On peut aller les chercher sur le site internet de Terran, demander à Erdiwa, on transmettra. Et puis partout ailleurs. Laurence, merci pour cette présentation.
Merci Baptiste pour cette invitation.
On se tient au courant.
Merci.
Belle journée.
Belle journée.
Interview.
Hey, the bird.
Interview du jour.
L'interview du jour.